OK, on va commencer notre 49e leçon, notre série « Le péché, les 10 commandements et la grâce ». Alors, on va regarder aujourd'hui le calvinisme et ses variantes. Autrement dit, beaucoup de gens croient aux doctrines de la grâce, mais il y a différents groupes qui croient différentes choses. C'est ce qu'on va regarder maintenant, les variantes du calvinisme. Alors, on se doit d'abord de différencier les variantes des abandons du système de théologie calviniste. Les variantes sont des points communs sur plusieurs doctrines, donc la soteriologie en particulier, autrement dit, dans l'ensemble des calvinistes, sur la soteriologie, on s'entend en général assez bien, mais il y a des différences parfois importantes sur la compréhension d'autres doctrines, comme l'ecclésiologie, donc la doctrine de l'Église, l'eschatologie, la doctrine des choses de la fin, la rédemption particulière, la double prédestination, l'évangélisation, l'exercice des dons spirituels et les relations avec la politique. Alors, les abandons ou répudiations du calvinisme, quant à eux, sont au nombre de trois. On les connaît, mais on va juste se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, tu as le pélagianisme, le semi-pélagianisme et l'arminianisme. Alors, le pélagianisme, ou on pourrait appeler ça même paganisme pur, c'est l'homme qui croit en sa capacité de plaire naturellement à Dieu. C'est l'homme qui dit avoir une volonté capable de choisir le bien. Et enfin, c'est l'homme qui affirme qu'il n'a pas de tendance innée à pécher. C'est en fait une survivance du paganisme dans tout son égoïsme et la complaisance de soi. Alors, on a le semi-pélagianisme, ou on pourrait appeler ça le paganisme déguisé, qui est un effort futile pour réconcilier la prédestination et le libre-arbitre, la souveraineté de Dieu et le libre-arbitre. Alors, l'Église catholique romaine l'a d'abord rejeté, puis réadopté. C'est une forme très dangereuse d'infidélité et un rejet de l'élection inconditionnelle, de la grâce irrésistible et aussi de la persévérance des saints. Et le troisième abandon, c'est vraiment l'arminianisme, où on pourrait l'appeler paganisme redéguisé, alors a été développé au début des années 1600, en combinant les deux systèmes du pélagianisme et du semi-pélagianisme, mais en ressemblant davantage au dernier. Alors, ses propagateurs furent John Wesley, Charles Finney, les pentecôtistes, les charismatiques, les néo-évangéliques et les baptistes généraux. Ceux qu'on appelle en anglais les General Baptists étaient de persuasion en général arménienne versus les Regular Baptists qui étaient en général aussi calvinistes. Alors, il faut faire la différence entre General et Regular Baptists. Quand on voit ça dans des textes, là, on sait que les Regular, c'est des calvinistes et les Generals, en général, sont plutôt de tendance arménienne. Alors, tous ces trois choses-là, l'arminianisme, en général, tous ceux qui croient à cette doctrine-là, leur dénominateur commun, c'est leur féroce animosité contre le calvinisme. Alors, leur croyance se résume ci-dessous. On va regarder un petit peu les cinq choses qui les caractérisent. Alors, premièrement, ils croient à la capacité qu'a l'homme de croire et de se sauver par lui-même. Deuxièmement, ils enseignent que l'homme a la capacité de résister à l'appel de Dieu et à sa grâce. Troisièmement, ils affirment que l'homme, par son libre arbitre, a la préséance sur la volonté souveraine de Dieu. Quatrièmement, ils croient en la rédemption universelle de l'homme, donc ils disent que rendant possible provisionnellement le salut de tous, mais ne garantissant absolument le salut d'aucun. Alors pour eux, le salut est disponible à tous en provision, mais il n'y a aucun le salut est garanti pour personne, en général. C'est bien sûr, à l'intérieur de tous les mouvements de l'arminianisme, il y a des différences, là, mais en général, c'est à peu près ça. La cinquièmement, beaucoup d'entre eux pensent que le salut peut se perdre et que l'homme croyant doit continuer dans un état de fidélité ou de foi pour assurer lui-même son salut. Alors, il donne beaucoup de place à l'homme, autrement dit. Alors ici, j'avais dans mes notes une affirmation du prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, sur la possibilité que la vérité se situerait quelque part entre le calvinisme et l'arminianisme. Voici ce que Charles Spurgeon dit concernant cette affirmation-là, cette possibilité-là. Alors, il dit, certaines personnes disent que la vérité est probablement quelque part entre le calvinisme et l'arminianisme. Ce n'est pas le cas. Il n'y a entre les deux qu'un désert infertile. Alors, c'est quand même une affirmation importante. Alors, je dis mieux tableau, dans le fond, qui pourrait résumer comment la foi s'est exercée, comment la foi s'est développée historiquement. Alors, bien sûr, c'est très, très, très résumé. Alors, on regarde la période des apôtres. On pourrait dire au 1er siècle que c'est la foi qui est délivrée. Augustin, on pourrait dire que c'est la foi. Alors, Augustin, c'est au 5e siècle, les années 430, aux alentours de ça. C'est la foi qui a été défendue. À la papauté, on a l'autre colonne, la papauté, du 6e au 15e siècle. Donc, on pourrait caractériser cette période-là comme étant la foi obscurcie. L'autre période, qui est la réforme, au 16e siècle, donc on pourrait dire que c'est la période caractérisée par la foi ravivée. Le synode de Dort, au 17e siècle, on pourrait dire que c'est la foi définie. Et quant au temps moderne, du 18e au 21e siècle, on pourrait dire que c'est la foi apostasiée par plusieurs. Cependant, durant la même période, c'est la foi transmise par un reste fidèle. Alors, c'est intéressant de voir le tableau, de voir comment ça s'est développé historiquement. Alors, on va regarder la première variante. Sur quoi on peut varier entre calvinistes? Alors, l'ecclésiologie et l'eschatologie. Alors, on peut constater des différences importantes entre deux dénominations professant toutes deux le calvinisme. Les presbytériens, par exemple, et les réformés baptistes. Les presbytériens ont adopté la confession de foi qui s'appelle Westminster Confession of Faith of 1646, donc la confession de foi de Westminster de 1646, dans laquelle est développée une croyance par rapport au baptême des bébés, donc qu'on appelle le pédobaptisme, à la nature de l'Église, quant à eux, on ne définit pas l'Église de la même façon que les baptistes, à son gouvernement, eux ne gouvernent pas l'Église de la même façon que les baptistes, la nature de l'Alliance, on le sait, Pascal actuellement a développé historiquement comment les baptistes comprenaient, les baptistes historiquement ont eu la compréhension de l'Alliance, mais dans une perspective qui s'est différente et qu'il s'est perdu, on dirait, à un moment donné, au début du 19e, fin du 19e, début du 20e, on aurait dit que les baptistes étaient en train de retourner plus vers le dispensationalisme, mais on voit que depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a un grand mouvement de retour vers nos racines, et je pense que c'est heureux. Alors, dans la nature de l'Alliance, c'est quand même une différence entre les presbytériens et les baptistes, et aussi d'autres détails. Parce qu'il existe des tableaux sur Internet où ils prennent les deux confessions de foi, ils les mettent une à côté de l'autre, et ils font une comparaison qu'on pourrait appeler mot pour mot. Les mots qui sont différents, ils les mettent en rouge. Alors, on peut voir sur quoi il y a des différences entre les deux. Alors, bien entendu, les réformés baptistes ont adopté, quant à eux, la confession de foi baptiste de Londres de 1689, laquelle, c'est la nôtre, dans laquelle ils expriment des différences quant aux points mentionnés dans le paragraphe qu'on vient de parler et sur d'autres points également. Alors, comme je l'ai dit, sur Internet, il existe des outils qui peuvent nous montrer les deux confessions de foi, une à côté de l'autre, et on peut voir sur quels points il y a eu des variantes. Alors, au cours de l'histoire de l'Église, les calvinistes ont opté pour des interprétations différentes concernant aussi l'eschatologie, donc les doctrines des choses de la fin, la prophétie. Alors, certains sont calvinistes, sont amillénaristes, d'autres sont calvinistes, sont prémillénaristes. Pour prendre par exemple de ça, John Gill était un prémillénariste, mais prémillénariste historique, qui est différent du prémillénarisme dispensationaliste. Et aussi, certains, beaucoup même, calvinistes ont été post-millénaristes, parmi eux, les puritains. Beaucoup de puritains étaient post-mille. Donc, on vient de regarder rapidement la première variante, l'ecclésiologie et l'eschatologie. La deuxième variante, c'est sur ce qu'on pourrait appeler la rédemption particulière. Autrement dit, il y a des personnes qui sont calvinistes qui se disent calvinistes 4 points. Ça vient de où? Et à quelque part, plusieurs calvinistes acceptent ce point de vue-là. D'autres rejettent ça comme étant de l'hérésie pure. Mais c'est intéressant de savoir que d'où ça vient et que ça continue d'influencer les gens de nos jours. Alors, certains croyants se disent calvinistes tout en refusant la rédemption particulière. On les appelle souvent les calvinistes 4 points. Il est à remarquer qu'historiquement, les calvinistes 4 points étaient considérés comme hérétiques. Et où ça dépend, il faut toujours regarder les choses dans une perspective historique. Alors, il y a eu des périodes où ceux qui étaient 4 points étaient considérés par les 5 points comme étant des hérétiques. Maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus coulant, qu'on pourrait dire. Il y a plus d'acceptation qu'un calviniste 4 points peut quand même être un calviniste. En tout cas, c'est quelque chose qui est discutable. Alors, cette pensée théologique-là a été développée par le théologien réformé français Moïse Amirault. On donne le nom d'amiraldisme ou d'amiraldianisme à ce système qui a été adopté par plusieurs de nos jours. Alors, quand vous regardez l'ensemble des livres qui ont été écrits pour défendre le système du calvinisme, 4 points, Amirault est beaucoup utilisé. Alors, quand on regarde dans des livres, il y en a qui vont dire « Ah, il a été influencé par… » Ils vont appeler ça Amiraldianism. Alors, ils vont utiliser beaucoup son travail. C'est un Français. Alors, c'est un Français ça fait longtemps que les eaux ils font plus mal, mais quand même, son influence continue à se faire sentir de nos jours. Alors, bien sûr, quelqu'un qui veut aller en profondeur là-dedans, ça peut être une étude presque sans fin, parce qu'il y a beaucoup de versets à aller voir, tout ça. Mais dans le fond, quand on veut résumer, alors j'ai trouvé un article sur Wikipédia qui résume un petit peu l'amiraldisme, appelé aussi doctrine de Saumur. Alors, ou universalisme hypothétique ou calvinisme 4 points. Alors, voyez-vous, ça porte plusieurs noms. C'est une doctrine qui est issue du calvinisme, mais qui abandonne le principe de l'expiation limitée en faveur d'une expiation illimitée, énonçant que Dieu a fourni l'expiation de Jésus-Christ pour tous de la même façon. Mais observant que personne ne se mettrait à croire tout seul, Dieu aurait alors élu ceux qui amèneraient à la foi en Christ. Ainsi, le principe calviniste de l'élection inconditionnelle est respecté. Cette doctrine fut en très grande partie véritablement établie à l'Académie de Saumur par le théologien réformé français Moïse Amirault, qui lui donna son nom. La formulation de cette doctrine fut pour lui une tentative de rapprocher le calvinisme du luthérianisme. Elle fut popularisée en Angleterre par le pasteur réformé Richard Baxter et remporta une forte adhésion parmi les congrégationalistes et certains presbytériens dans les colonies américaines au 17e et 18e siècle. Voyez-vous, Baxter, c'est un puritain. Normalement, tous les puritains, en général, étaient des 5 points calvinistes. Mais Richard Baxter, il y a quand même, dans tout ce qu'il a publié, d'excellents documents. Mais sur ce point-là, disons qu'on ne peut pas le suivre. Alors, l'amiraldianisme est présent au sein des divers groupes évangéliques aux États-Unis et du diocèse anglican de Sydney. Il est répandu dans les groupes conservateurs et modérés des églises presbytériennes, réformés baptistes. Ça, je suis curieux, il affirme ça, mais je ne sais pas où qu'il prend ça. Ils disent qu'il y aurait des réformés baptistes qui seraient 4 points. Moi, je n'en connais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il en existe. Et chez les membres évangéliques de l'Église d'Angleterre et dans certaines églises non dénominatives. Historiquement, l'amiralisme a été appelé calvinisme modéré. Moi, je ne serais pas d'accord avec cette expression-là. L'apologiste Norman Gessler définit son point de vue de cette façon. Alors lui, Gessler dit que les quatre points, c'est des calvinistes modérés. Mais plusieurs théologiens refutent l'idée qu'il serait un calviniste modéré. Ainsi, James White qualifie sa pensée de simple forme modifiée de l'arminianisme historique. Alors, lui il dit qu'il est un calviniste modéré. James White, il dit que c'est juste une forme déguisée d'arminianisme historique. Alors, le théologien Robert Charles Prowl, alors on le connaît bien, lui, pense qu'il existe une confusion à propos de ce que la doctrine de l'expiation limitée enseigne réellement. Bien qu'il considère qu'il est possible pour une personne de croire à quatre des points du calvinisme sans croire au cinquième, il soutient qu'une personne qui comprend vraiment ces quatre points doit croire à l'expiation limitée en raison de ce que Martin Luther appelle la logique irrésistible. Voyez-vous, il fait comme un... Théoriquement, il fait un compromis en disant « Oui, tu peux être quatre points, mais il définit pas vraiment ces choses. » On dirait qu'il est comme en deux eaux. Personnellement, j'aime pas vraiment ce type d'affirmation-là parce que ça laisse sous-entendre des choses. Alors, moi, je trouve que quand tu définis bien tes choses, les points s'enchaînent les uns avec les autres et il y a des conséquences à dire, par exemple, l'expiation... Elle est particulière ou elle est universelle, mais elle ne peut pas être les deux en même temps. Alors, si tu dis qu'elle est particulière, ça a des conséquences sur les autres points. Alors, dire que les quatre points peuvent être calvinistes, personnellement, disons que je ne suivrai pas M. Sproul dans cette avenue-là. Alors, la question à se poser est la suivante. Le salut ou l'œuvre de Christ a-t-il rendu possible le salut pour toute l'humanité? Ou a-t-il accompli le salut pour les élus seulement? C'est ça la question fondamentale. Alors, la réponse traditionnelle des calvinistes 5 points a été pour le salut des élus seulement. Les partisans du calvinisme 4 points résument souvent ainsi leur croyance. Ça, je me souviens, en tant qu'école biblique, on entendait cette expression-là. « Sufficient for all, efficient for the elect only ». Quand tu suis cette logique-là, tu es en train de dire que le salut de Christ est suffisant pour tout le monde, mais qu'il va être efficace uniquement pour les élus. Moi, je dis, et je pense que le système calviniste en général dit qu'il est suffisant et efficace pour les élus seulement. La suffisance et l'efficacité sont égales, et non pas... Un est plus grand que l'autre, puis que quelque part, ils sont obligés de faire des petites pirouettes pour arriver à garder les deux systèmes. Alors, au contraire, nous, on croit que la suffisance et l'efficacité correspondent parfaitement. Donc, les élus seulement. On va regarder maintenant la troisième. Bien sûr, on pourrait passer beaucoup de temps à discuter de toutes ces affaires-là et aller historiquement voir comment ça s'est développé, mais c'est pas le but aujourd'hui, c'est de regarder. Que le calvinisme a des variantes, disons que certaines personnes peuvent être calvinistes, mais sur certaines autres affaires, il y a des variantes importantes. Alors, la troisième variante, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler la double prédestination. Alors, la question de l'ordre des décrets divins a été aussi fortement discutée et exprimée dans ce qu'on peut appeler le lapsarianisme. Lapsarianisme, c'est un grand mot, mais... Supra veut dire que Dieu a décrété qui sauverait et qui serait perdu. Donc, supra, ça veut dire avant. Et infra, si notre confession de foi est infra, le psarianisme, c'est-à-dire que Dieu a décidé qui serait sauvé et qui serait perdu après que la chute est arrivée. Alors, c'est une question de théologie, une question de logique, et ça a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire, et ça continue d'en faire. Alors, on va regarder un petit peu en quoi ça consiste, tout ça. Alors, le lapsarianisme est l'ensemble des doctrines calvinistes qui décrivent l'ordre théorique des décrets de Dieu, en particulier l'ordre de ses décrets pour la chute de l'homme et aussi pour la réprobation. Le nom de cette doctrine vient du latin lapsus, qui signifie chute. Alors, quand on voit lapse, ça vient du mot chute. Alors, c'est vraiment avant la chute ou après la chute? Dieu a-tu décrété les élus avant la chute ou après la chute? Toute la discussion vient de là et tout le monde, bien entendu, se sert de versets pour justifier leur position. Alors, le supralapsarianisme est l'idée que les décrets de Dieu, de l'élection et de la réprobation ont logiquement précédé le décret de la chute. À l'inverse, l'infralapsarianisme, appelé aussi parfois sublapsarianisme, alors on le voit, sub, ça veut dire sous, affirme que les décrets de Dieu, de l'élection et de la réprobation ont logiquement succédé au décret de la chute. Autrement dit, un dit que Dieu avait décidé avant même la chute, d'autres, l'autre, infra et sub, c'est dans le fond les mêmes choses, disent que c'est après. Après que la chute est arrivée, Dieu a décidé sur la masse des personnes perdues qui sauverait, qui serait réprouvé. Quelle que soit la position adoptée, qu'on soit lupra, supra ou infralapsaire, tous ces décrets sont considérés comme ayant été conçus par Dieu avant même la création du monde. Ça, là-dessus, je pense que tout le monde s'entend. C'est avant la création du monde, mais c'est juste une question de logique. Comment Dieu a agi? Est-ce qu'il a agi avant ou est-ce qu'il a agi après la chute? Alors, historiquement, les premiers à avoir formulé la position supralapsaire furent Théodore de Bèze et Jérôme Lanquius. Voyez-vous, ce que, quand on regarde deux hommes qui ont travaillé ensemble toute leur vie, Jean Calvin et Théodore de Bèze. Théodore de Bèze était supralapsaire et Jean Calvin était infralapsaire. Ils ont travaillé ensemble, ils n'ont jamais eu de problème. Alors, il ne faut pas faire de ces choses-là. Ça peut être, on peut avoir des convictions personnelles, mais il ne faut pas faire de ces convictions-là des choses de se séparer des autres. Parce qu'il y en a qui vont jusque-là. Alors, quelques calvinismes ultérieurs, en particulier ceux influencés par la théologie de Bèze, rejoignirent cette position. En Angleterre, l'influence de Bèze se fit ressentir à Cambridge, où William Perkins et William Ames ont défendu le supralapsarianisme, tout comme Franciscus Gomarus aux Pays-Bas. Alors ça, c'était considéré, notre ami William Perkins, comme étant le théologien des puritains. Il était extrêmement influent à son époque. C'était... tous les gens suivaient. Alors, William Perkins, c'était d'une très, très grande influence. Il était supralapsaire. Alors, quelque part, j'ai un tableau où il décrit l'ordre des décrets. C'est vraiment génial. Alors, éventuellement, je l'imprimerai puis je vous l'amènerai. C'est vraiment où il décrit le salut à partir du début jusqu'à la fin, avec toutes les positions. C'est vraiment génial. Lui qui a fait ça, lui, il a vraiment... Alors, Perkins était considéré comme un génie de son époque. Beaucoup de puritains l'ont suivi. Alors, plus tard, William Twiss écrivit l'ouvrage de référence sur le supralapsarianisme, qui s'intitulait « The Riches of God's Love ». Je me souviens, quand j'ai étudié John Gill, quand il donne sa position sur le supra et l'infra, et il prend pas vraiment position, il disait que pas ma pensée est entre les deux. Mais il dit que celui qui est allé le plus loin dans le développement de sa pensée et toute la logique qui est en arrière de ça, c'est le Dr. Twiss. John Gill est un gars très calé, et il dit que Twiss, c'est celui qui a réfléchi au problème et toutes les conséquences du problème, de la position. Dr. Twiss, c'est celui qui est allé le plus loin là-dedans. Alors, si ça intéresse quelqu'un, il peut aller fouiller dans ces documents-là du passé. Alors, au siècle dernier, les plus récents partisans du supralapsarianisme incluaient Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, en passant, c'est un bonhomme qui a été premier ministre, président de la Hollande au 19e siècle. Alors, c'était un homme de haute stature. Alors, lui était supralapsarianiste. Il y avait Herman Hawkes, Arthur Pink, Gordon Clark, et fort probablement qu'il faudrait donner des listes plus longues que ça, mais il donne des noms des supralapsaires modernes qu'on peut encore trouver leur raisonnement. Alors, historiquement, on estime que moins de 5% les calvinistes ont été élus suprélapsaires. Ça, je ne sais pas comment tu as fait calculer ça, là, parce qu'il faut vraiment que tu fasses une liste très complète. En tout cas, disons que c'est vrai. Autrement dit, l'idée, c'est que les supralapsaires ont été en général minoritaires comparativement aux infralapsaires. Alors, par ailleurs, selon Lauren Bettner et Kurt Daniel, aucun théologien majeur de la Réforme et très peu de calvinistes modernes sont supralapsaires. Alors, c'est juste qu'il faut savoir un peu, parce que des fois, on peut lire quelque chose et qu'on rencontre des gens qui vont défendre la double prédestination et ils vont être supralapsaires. Mais si on ne le sait pas, à quelque part, ça peut nous troubler. Alors, c'est important de savoir qu'il y a des positions différentes. Alors, la position infralapsaire fut exprimée lors du synode de Dordrecht, ou de Dort, en 1618. Dans les canons de Dordrecht, l'article 7 du premier point de doctrine énonce « Or, l'élection est le propos immuable de Dieu, par lequel, selon le très libre et bon plaisir de sa volonté, par pure grâce, il a, en Jésus-Christ, élu au salut avant la fondation du monde, d'entre tout le genre humain déchu par sa propre faute. » Voyez-vous? La manière c'est exprimé, c'est en train de dire que le choix de Dieu s'est fait après la chute, parce que ça dit « d'entre tout le genre humain déchu ». Donc, la position est exprimée dans le texte lui-même. Excusez. « Par sa propre faute, dès sa première intégrité dans le péché et la perdition, une certaine multitude d'hommes, ni meilleurs, ni plus dignes que les autres, mais qui, avec ceux-ci, gisaient dans une même misère. » À l'Assemblée de Westminster, les supralapsaires étaient en minorité. Les documents issus de cette Assemblée, les Westminster Standards, reflètent donc la position infralapsaire. Donc, quand on regarde la position, Westminster est infralapsaire, Confession de foi 1689 est infralapsaire. Mm. C'est important de savoir ça, parce que si vous rencontrez des documents, au moins vous savez qu'il existe d'autres positions. Alors, les termes de supralapsarianisme et d'infralapsarianisme sont souvent utilisés dans un sens général. Le premier signifie alors que Dieu a planifié la chute, et le second que Dieu l'a simplement prévu et, à partir de ce moment, l'a permise ou a simplement réagi à elle. Par conséquent, certains ont pu croire que tous les calvinistes étaient supralapsaires, pensant que Dieu a planifié la chute, alors que les calvinistes eux-mêmes ne sont pas unanimes sur cette question. Néanmoins, au sein de l'école calviniste, les termes en sont venus à changer de sens. Alors que tous soutenaient que Dieu a planifié la chute avant la création, des débats surgirent à propos de la relation logique existante au sein du plan de Dieu entre la décision de sauver les individus et la décision d'autoriser la chute. Les supralapsaires croient que dans l'ordre logique des décrets divins, l'élection et la réprobation individuelle ont logiquement eu lieu avant la chute. Les infralapsaires pensent au contraire qu'elles se sont logiquement produites ultérieurement ou après la chute. Alors, vraiment, se souvenir de supra et d'infra, c'est juste la question d'avant ou après. Si on tient les deux mots, on est correct. Les deux positions suivent techniquement la théorie de la double prédestination, puisque Dieu a fixé le destin éternel des élus et des réprouvés. Cependant, la double prédestination est généralement aujourd'hui un terme péjoratif et ambigu, utilisé pour décrire ceux qui croient que Dieu travaille activement à garder de la même manière les élus au ciel qu'il garde les réprouvés hors du ciel. Ce dernier concept est en fait différent de la double prédestination. Il n'était pas défendu par Jean Calvin, ni par la plupart des théologiens de la tradition réformée. Il est devenu populaire avec l'hyper-calvinisme. Alors, le préfixe latin « supra » signifie « sur, au-dessus ou avant ». Le préfixe « infra » signifie, quant à lui, « sous, en dessous ou après ». Le supralapsarianisme est l'idée selon laquelle la chute s'est produite, entre autres, pour aider Dieu à atteindre son but concernant l'élection et la réprobation des individus. L'infralapsarianisme assure, en revanche, que lorsque la chute a été planifiée elle ne l'a pas été en référence à ceux qui seraient sauvés. Par conséquent, les supralapsaires, ici dans le sens calviniste, croient que Dieu a choisi quels individus sauver avant d'avoir décidé d'autoriser l'homme à chuter. La chute étant alors un moyen de réaliser la décision prise préalablement d'envoyer certains individus en enfer et d'autres au ciel. La chute fournissant les conditions nécessaires à la condition des réprouvés et le besoin de la rédemption dans le cas des élus. À l'inverse, les infralapsaires affirment que Dieu a planifié logiquement le moment où l'homme chuterait avant sa décision de sauver ou de donner tel individu parmi les autres. De plus, les infralapsaires soulignent le fait que pour être sauvé, il faut être confronté à quelque chose dont on doit avoir besoin, d'être sauvé. Logiquement, donc, la chute se situerait avant le décret de l'élection. Historiquement, l'un des intérêts de la position infralapsaire réside dans le fait qu'elle puisse, au moins en partie, constituer une possible théodicée. Alors, une théodicée, c'est tout simplement une explication de l'apparente contradiction qui existe entre l'existence du mal et deux caractéristiques qui sont propres à Dieu, sa toute-puissance et sa bonté. Alors, une théodicée, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser le fait qu'il y a du mal et le fait que Dieu soit bon et le fait que Dieu soit puissant. Alors, parce que les raisonnements pourraient être le suivant. Si Dieu est bon, puis s'il est tout-puissant, pourquoi a-t-il permis le mal? Alors, la position infralapsaire permet une explication sensée, tandis que l'autre position devient un petit peu plus difficile à défendre. Alors les supralapsaires sont souvent qualifiés d'hypercalvinistes, bien qu'il s'agisse d'un terme impropre. Tous les hypercalvinistes sont supralapsaires, mais tous les supralapsaires ne sont pas hypercalvinistes. Ici, il faut avoir un petit peu, faut réfléchir un petit peu. Autrement dit, quelqu'un peut être supralapsaire sans être un hypercalviniste, parce qu'un hypercalviniste, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'a pas besoin des hommes pour sauver. Alors que tu peux être supralapsaire en disant « Oui, je dois aller quand même annoncer le salut aux hommes. » Alors, je ne sais pas si vous faites la différence, là, mais la différence est là et elle est importante quand même. Alors, beaucoup de calvinistes rejettent les deux doctrines du lapsarianisme pour diverses raisons. Alors, Herman Bavinck, qui est un Hollandais, qui a écrit sur le Seigneur des briques. C'est vraiment un homme très, très structuré, très intelligent, un bon théologien. Selon lui, on ne devrait pas chercher à rentrer dans la compréhension de ces choses-là. Alors lui, il considère que les décrets de Dieu, c'est des choses de nature éternelle. Alors il y a d'autres calvinistes, il y a beaucoup de non-calvinistes et d'arméniens qui s'opposent à ces doctrines car ils pensent que quel que soit l'ordre donné à ces décrets, il s'agit d'une simple supposition inutile et totalement hypothétique. Alors, on voit que certains théologiens disent qu'on ne devrait pas s'embarquer là-dedans, d'autres oui, d'autres ont pris position, d'autres sont entre les deux. Alors, quand on se met à regarder un petit peu toutes les différentes positions du calvinisme, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de place à réfléchir. La quatrième variante, c'est l'évangélisation. Autrement dit, l'évangélisation, quand on est calviniste, est-ce qu'on doit évangéliser ou est-ce qu'on ne doit pas évangéliser? Alors, l'hyper-calviniste, ceux qu'on dit qui sont des hyper-calvinistes, ont mis une suremphase sur la souveraineté de Dieu et une sous-emphase sur la responsabilité humaine d'évangéliser. Autrement dit, les hyper-calvinistes d'Angleterre et qu'il y en a aussi aux États-Unis, pour eux, Dieu est souverain, il n'a pas besoin des hommes pour sauver qui que ce soit. Alors, bien entendu, à ce moment-là, ça se reflète dans ta manière d'agir. Autrement dit, si tu crois que Dieu est souverain et que tu n'as pas d'affaires là-dedans, tu n'es pas responsable d'évangéliser, à ce moment-là, tu laisses les choses se dérouler. Beaucoup de personnes accusent les cinq points calvinistes d'être des hyper-calvinistes. Mais ça, c'est complètement faux. Il faut faire attention parce que tout ton vocabulaire véhicule des idées très importantes. Alors, des fois, quand tu dis aux gens « Ah, ceux qui sont calvinistes sont des hyper-calvinistes », tu es en train de leur rentrer des choses dans la tête, comme de quoi on n'évangélise pas. Hey, c'est pas toujours vrai. Bien au contraire, dans le milieu calviniste, bien souvent, c'est les milieux qui évangélisent le plus. Alors, ce système-là d'hypercalvinisme a favorisé un repli sur soi et une sorte de fatalisme chrétien. Andrew Fuller et William Carey ont fermement réagi et ont été les initiateurs d'un important mouvement d'évangélisation et de développement des missions. Oui, ils étaient calvinistes, mais ils étaient dans des milieux hyper-calvinistes, mais ils ont réagi en disant non, les Écritures nous disent qu'on se doit d'aller vers le monde. Alors, c'est deux personnages, probablement beaucoup d'autres, là, mais deux qui ont vraiment contribué à faire sortir les hyper-calvinistes, certains hyper-calvinistes, de cette pensée-là. La cinquième variante, c'est ce qu'on pourrait appeler le néo-calvinisme. Alors, en plus des mouvements traditionnels au sein des églises réformées conservatrices, plusieurs courants sont apparus à travers la tentative de proposer une approche du monde contemporain, mais théologiquement conservatrice. Voyez-vous, le néo-calvinisme, c'est tout simplement ils ont gardé le système de la théologie, mais se sont dit, il faut faire de quoi pour se rapprocher avec les choses modernes. Alors, oui puis non, il y a des dangers là-dedans. Alors, le néo-calvinisme est une version du calvinisme qui fut adoptée à la fois par des conservateurs et des libéraux en matière de théologie. Il gagna en influence vers la fin du 19e siècle au sein des églises réformées néerlandaises. Il se développa à partir des théories du théologien, homme politique et journaliste néerlandais Abraham Kuyper. Alors, Abraham Kuyper, c'est un homme qui, justement, il est allé en politique. Alors, quelque part, sa pensée est que non seulement il faut avoir le bon système de théologie, mais il faut le rendre pratique dans la vie de tous les jours. Alors, le néo-calvinisme a tendance à vouloir s'occuper de politique. Alors, les critiques de ce mouvement de la part des calvinistes plus modernes le décrivaient comme une révision du calvinisme, mais une révision plus conservatrice par rapport au christianisme moderne ou à la néo-orthodoxie. Le néo-calvinisme ou la philosophie réformée sont une réponse aux influences des Lumières, mais d'une façon générale, ils ne touchent pas directement aux doctrines du salut. Les néo-calvinistes considèrent leurs travaux comme une mise à jour, une vision du monde, en réponse aux circonstances modernes. Voyez-vous, c'est vraiment une tentative de vouloir s'adapter au monde moderne. Alors, ils souhaitent que ce soit une extension de la compréhension calviniste de la religion aux questions scientifiques, sociales et politiques. Voyez-vous, c'est le calviniste qui essaye de se situer avec les nouveaux problèmes amenés par le modernisme qui sont des questions scientifiques, des questions sociales, des questions politiques. Alors, ils essayent de prendre position face à ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça néo. Néo, ça veut dire nouveau. Le nouveau calviniste qui cherche à s'adapter aux nouvelles conditions amenées par l'économie, la sociale ou la politique. Alors, pour montrer leur cohérence avec le mouvement réformé historique, ses partisans font référence aux chapitres 1 à 3 du premier livre de l'Institution de la religion chrétienne de Calvin. Aux États-Unis, le néo-calvinisme de Kuyper est, entre autres, représenté par le Center for Public Justice, un think tank. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un think tank. Un think tank, c'est comme une assemblée de grands penseurs qui vont se pencher sur des questions. Un think tank, c'est un groupe qui veulent réfléchir en profondeur, mais des gens qualifiés sur des problèmes particuliers. Alors, aux États-Unis, ça existe. Ça s'appelle le Center for Public Justice. C'est un think tank, donc, autrement dit, des hommes qui sont capables de réfléchir aux grands problèmes. Et donc, c'est un think tank politique et confessionnel dont le siège se trouve à Washington. Alors, on ne peut pas dire que ces choses-là n'ont pas d'influence. Ça a de l'influence. Alors, le néo-calvinisme bifurqua vers des mouvements théologiquement plus conservateurs aux États-Unis. Le premier d'entre eux à devenir important se développa à travers les écrits de Francis Schaeffer. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Francis Schaeffer est un Suisse qui est un intellectuel qui a rassemblé autour de lui d'autres intellectuels qui voulaient aussi regarder le monde à travers les lunettes calvinistes, mais les nouveaux problèmes amenés par le modernisme. Alors, c'est un peu ça, là. Alors, Francis Schaeffer est bien connu, avait réussi à réunir autour de lui un groupe d'universitaires qui diffusaient leurs idées par écrit et grâce à l'organisation qui s'appelait l'ABRI, un centre d'études calvinistes en Suisse. Alors, ce mouvement-là généra une conscience sociale renouvelée au sein des évangéliques. Voyez-vous, c'est comme tu regardes le monde avec tes lunettes calvinistes, mais tu regardes les nouveaux problèmes. Et là, tu essaies de prendre position. À le fond, ce qu'on appelle le néo-calvinisme, c'est vraiment ça. Essayer de regarder comment nous, on réagit face aux nouveaux problèmes qui sont amenés par la société moderne. La sixième variante, c'est ce qu'on appelle le reconstructionnisme ou la théonomie. Alors, cette variante-là est importante parce que même dans notre propre milieu, on sait qu'il y a des gens qui sont laissés embarquer dans ça. Et bien entendu, eux sont convaincus qu'ils ont raison. C'est le propre d'une philosophie ou d'une position de toujours penser que c'est nous qui avons raison, les autres ont tort. Mais on s'en sert nous-mêmes aussi. Mais à quelque part, il ne peut pas avoir toutes les deux raisons. Il y en a un, c'est des deux qui a tort. Alors, le fameux reconstructionnisme ou la théonomie, ça aussi, c'est fort aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, des livres de théologie, beaucoup de livres. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup d'influence, des médias, des sites web. Alors, le reconstructionnisme chrétien est un autre mouvement néo-calviniste, mais beaucoup plus petit, plus radical et théocratique. Il est cependant décrit par certains comme largement influent dans la vie politique et familiale américaine. Le reconstructionnisme est une révision du calvinisme, distincte de l'approche de Kuyper, qui s'écarte nettement de cette influence d'origine par le rejet du pluralisme religieux et par la proposition faite au gouvernement civil moderne d'appliquer des sanctions tirées de la loi biblique. Voyez-vous, la position de Kuyper, c'était plus accepter le pluralisme religieux. Voyez-vous ce que ça peut mener? Tandis que le mouvement théocratique, une théonomie, eux vont plus rejeter le théocratique. Autrement dit, ils ne travailleront pas avec n'importe qui, en autant qu'ils adoptent les mêmes principes qu'eux. Alors, c'est ça la différence. Ces caractéristiques sont souvent les aspects les moins influents du mouvement. Son fondateur intellectuel, Roussas John Rush Dooney, ça je dirais que c'est le grand penseur de tout ce mouvement-là, américain, base une grande partie de ses opinions sur les idées apologétiques de Cornelius Van Til, le père du présuppositionnalisme et professeur au séminaire théologique de Westminster, bien que Van Til ne soutenait pas... Alors, il se sert de la philosophie de Van Til pour justifier son approche, mais Van Til lui-même n'aurait pas embarqué dans ça, là. Alors, ce mouvement a une certaine influence parmi les églises réformées conservatrices au sein desquelles il est né et parmi les églises baptistes, calvinistes et charismatiques, principalement aux États-Unis. Le reconstructionnisme tend à reconstruire totalement les structures de la société sur des présuppositions chrétiennes et bibliques. Selon ses défenseurs, ce but ne sera pas atteint par des changements structurels du sommet à la base, mais à travers la progression régulière de l'Évangile du Christ dans l'esprit des hommes, telle qu'elle se voit par la conversion des hommes et des femmes, lesquels par la suite mettent en œuvre leur obéissance à Dieu dans tous les domaines dont ils sont responsables. En se conformant aux principes théonomiques, ce mouvement cherche à établir les lois et les structures les mieux à même de mettre en application les principes éthiques de la Bible, y compris l'Ancien Testament, tels qu'ils sont résumé dans le décalogue. Autrement dit, l'idée, c'est d'imposer le décalogue dans la gestion sociale, politique et économique d'une société. Et eux poussent l'idée qu'on se devrait de s'investir, on se devrait de prendre le pouvoir, peu importe où qu'on est, local, régional, national, pour pousser cette idée-là. Alors, c'est ça leur idée. Alors, bien que n'étant pas un mouvement politique à proprement parler, le reconstructionnisme a néanmoins été influent dans le développement de certains aspects de la droite chrétienne et que certains détracteurs ont qualifié de dominionnisme. Le reconstructionnisme assure que Dieu a institué dans les Saintes Écritures tout ce qu'il exige pour organiser la société et soi-même, étendant alors le principe régulateur du culte à tous les domaines de la vie. Bien sûr, on n'a fait qu'effleurer le sujet. Et donc, les trois hommes à retenir, les noms, parce que si jamais ils nous reviennent à l'esprit, il y a Roussas, John Rushdoony, et aussi Gary North et Greg Benson, deux autres auteurs très prolifiques, qui ont beaucoup écrit aux États-Unis, qui ont beaucoup eu d'influence. Et ils ont défendu aussi ce système-là de reconstructionnisme. La septième variante, c'est ce qu'on pourrait appeler le nouveau calvinisme. Alors, le nouveau calvinisme est un mouvement au sein du christianisme évangélique conservateur qui adhère aux principes de la réforme calviniste du 16e siècle, tout en cherchant à mettre en phase cette doctrine avec la culture actuelle. Voyez-vous, c'est comme une nouvelle forme, un petit peu du néo-calvinisme. Alors, ses partisans. Alors, le magazine Time a écrit en 2009 le nouveau calvinisme comme étant l'une des 10 idées en train de changer le monde et ses partisans, comme des baptistes réformés et des baptistes du Sud principalement. Alors, les principales figures du nouveau calvinisme sont John Piper, Mac Driscoll, Matt Chandler, Hal Mohler, Mark Dever, C.G. Mahaney et Joshua Harris. Alors, de nombreux artistes calvinistes hip-hop, comme Lecrae et d'autres artistes de Reach Records participent à ce mouvement. Autrement dit, ce qui est un petit peu l'idée de ça, c'est vraiment le calviniste, mais il intègre un peu la musique hyper moderne avec... Moi, je trouve qu'ils prennent une mauvaise... Personnellement, je ne veux pas rentrer dans la critique de ça ouvertement, puis en allant dans les détails, mais je trouve que faire du hip-hop puis du calvinisme en même temps, c'est comme... Personnellement, là. Et la huitième variante, c'est le calvinisme charismatique. Alors, depuis, un mouvement semble se dessiner, indiquant qu'un bon nombre de leaders pentecôtistes ou charismatiques ont commencé à adopter certaines doctrines calvinistes et à les conserver à même leur propre système théologique. Un bon exemple de ça, c'est comme le groupe de Raymond qui est allé chercher à Québec. Donc, le pasteur voulait garder tout ce qui est charismatique, mais en même temps, alors on pourrait dire que c'est une huitième variante, le calvinisme charismatique. Aux États-Unis, ça commence à prendre... Autrement dit, c'est les calvinistes qui commencent à adopter le calvinisme, avec les dangers de mettre les deux systèmes en même temps puis de ne pas faire la part des choses. En tout cas, c'est des choses qui existent, il faut savoir qu'elles existent. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Rappelons-nous notre responsabilité de se séparer de l'erreur. L'étude sérieuse des Saintes Écritures est donc impérative. Deuxième application, nous devons garder l'équilibre dans nos doctrines et éviter les pièges de la suremphase ou de la sous-emphase ou d'accorder trop de place à la raison. Alors, faut toujours, on est toujours comme sur une corde raide jusqu'à un certain point. Et parce que ceux qui se sont écartés par des variantes importantes, c'est ceux qui, à quelque part, ont mis trop une suremphase, soit sur la souveraineté, ou une sous-emphase sur la responsabilité de l'homme. Alors, on danse sur une corde raide, il faut toujours faire attention pour garder l'équilibre. Troisième application, nous devons toujours rétablir les faits et nous défendre contre les fausses accusations, les fausses interprétations, les étiquettes caricaturales comme celle-ci. Les cinq points calvinistes sont des hyper-calvinistes. Nous cherchons à provoquer des divisions, des accusations. Alors, il faut faire attention de ne pas juste les laisser parler. À un moment donné, il faut que tu ramènes les faits, sinon leur auditoire grandit. Alors, aussi, ils vont nous accuser qu'on manque d'amour, etc. Et la quatrième application, connaissons bien la vérité, défendons-la, enseignons-la, gardons l'équilibre et méfions-nous de l'orthodoxie morte, en conservant le lien essentiel de la nécessaire union de l'amour et de la vérité, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.